Bonsoir à tous. Bienvenue à tous, ceux qui sont dans la salle et les très nombreux participants qui sont avec nous sur Zoom. Nous sommes environ 200 à participer à cette soirée de la chaire Rodin. Je m'appelle Laure Blanchon, je suis enseignante en théologie dogmatique et pratique ici au Centre Sèvres. Je suis titulaire de la chaire Jean Rodin. Et je coordonne le département de recherche en théologie pratique. Je suis heureuse de vous accueillir ce soir au Centre Sèvres. Soyez tous les bienvenus. La chaire Rodin fait partie d'un réseau de chaires soutenu par la Fondation Jean Rodin. Et je salue plusieurs membres qui sont ici ou en lien avec nous par Zoom. Monseigneur Décube, que j'ai vu tout à l'heure sur le Zoom. Xavier de Palmer qui pense à nous et Grégoire Cata qui doit être quelque part dans cette salle. Avec les chers Jean Rodin de Strasbourg, de Lille, de Toulouse, de Lyon et de la Cato de Paris, nous travaillons tous de diverses manières pour développer une théologie de la charité et une théologie attentive aux plus pauvres. Nous sommes actuellement dans un processus qui se couronnera par un colloque en 2025 sur la question de la participation des plus pauvres dans la société et dans l'Église. Nous cherchons à repérer les lieux où l'inspiration évangélique a suscité des expériences, réussies ou non, de participation active de personnes en situation de précarité. Dans ces expériences, il revient aux chaires, d'ici 2025, de travailler pour relever ce qui pourrait constituer des enseignements pour une transformation des pratiques sociales et ecclésiales et pour un chemin de conversion et de transformation personnelle. Le séminaire dialogal, qui s'est vécu de mai 2022 à avril 2023, dont nous allons rendre compte ce soir, s'inscrit au cœur des projets de recherche de la chaire Jean Rodin. Dans ce séminaire, des personnes ayant l'expérience de la grande précarité et des théologiens n'ayant pas cette expérience de la grande précarité se sont essayés à penser ensemble pour élaborer une question théologique et y répondre. Nous voudrions vous partager quelque chose de l'aventure humaine, spirituelle et théologique que nous avons vécu l'année dernière. Pour le faire, notre soirée va être composée de quatre grands moments. D'abord, vous partagez l'origine du séminaire, puis rendre compte de la manière dont nous avons travaillé, puis présenter ce que nous avons produit dans le cadre de ce séminaire dialogal et écouter Michel Fédoux qui nous en proposera une analyse. Et enfin, échanger ensemble, de manière informelle, autour d'un jus de fruits avec les membres du séminaire que vous pourrez reconnaître à leur foulard. À la fin de la soirée, vous pourrez aussi vous rendre au fond et trouver, vous procurer le petit livre qui contient les textes produits en séminaire. Voilà, très bonne soirée à tous. Nous commençons la première étape de notre soirée pour vous présenter l'origine de ce séminaire. Je donne la parole à François Audinet, théologien, enseignant au Centre Sèvres en théologie pratique. François est l'un des quatre théologiens qui a participé au séminaire dialogal.
Merci Laure, bonsoir à tous et à toutes. Il y a 2 ans maintenant, dans l'équipe du département de recherche en théologie pratique et pastorale, composée de Laure Blanchon, de Frédéric-Marie Leméauté, d'Étienne Grieux et moi-même, nous avons fait un bilan de notre travail de recherche. Celui-ci Ce travail de recherche fait partie intégrante de la manière dont nous pratiquons la théologie ici au Centre Sèvres, non seulement à travers les charges d'enseignement et d'accompagnement des étudiants, mais aussi en essayant de concourir au vaste mouvement de la recherche en théologie. Il y a 2 ans donc, un constat nous est venu tout de suite. La recherche théologique, qui essaie de se mettre à l'écoute de la parole des personnes qui connaissent la précarité, cette recherche théologique donne lieu à des séminaires passionnants qui permettent de croiser différentes disciplines tout en progressant dans notre réflexion. En effet, ça fait 10 ans que ce genre de séminaire existe dans notre faculté de théologie et nous en constatons l'intérêt. Ce séminaire permet aussi de croiser les approches entre des personnes qui cheminent au quotidien avec leurs amis plus précaires et d'autres qui n'ont pas cette expérience directe mais qui veulent réfléchir dans cette optique. Et pourtant, ce constat heureux, positif, ne nous satisfaisait pas complètement. Et en fait, il a plutôt fait naître l'envie d'aller plus loin. Parce que chacun de nous 4 est engagé dans des groupes de chrétiens du quart-monde. Dans ces groupes, nous cheminons avec les personnes, nous échangeons avec elles et, disons-le, nous recevons beaucoup de cette conversation. Mais justement, cette dimension de dialogue et de conversation n'était pas directement présente dans notre travail en séminaire. Jusqu'à présent, les personnes qui connaissent la précarité n'étaient pas associées directement au travail du séminaire, même s'il est arrivé que certains groupes proposent leur réflexion sur un texte biblique et de cette manière-là contribuent réellement à la recherche. Eh bien, c'est ainsi qu'a germé une espérance. Imaginez un séminaire dialogal, un séminaire dans lequel des théologiens et des personnes du quart-monde pourraient construire ensemble une pensée que chacun pourrait reconnaître comme étant la sienne. Nous sommes vraiment marqués par l'idée de donner priorité dans la réflexion à la parole des personnes qui connaissent la précarité. Mais justement, nous souhaitions que cette priorité-là n'empêche pas la conversation, mais au contraire qu'elle la nourrisse. Alors c'est avec cette espérance que nous nous sommes tournés vers Jean-Claude Caillot, Marie-Agnès Fontanier et Pierre Davienne qui nous suit par Zoom depuis l'Algérie. Tous les 3 animent des groupes chrétiens du quart-monde. Dans les tout premiers objectifs du séminaire, nous nous sommes en effet fixés le but de créer des conditions favorables à l'élaboration de la pensée des personnes du quart-monde, tout en dialoguant avec elles, afin d'expérimenter une communion de pensée et de recherche. Pour finir cette toute petite introduction à l'origine de ce séminaire, j'ajoute que notre objectif ne se limitait pas à un essai de connaissance théologique. Nous voulions aussi entrer davantage dans le combat des personnes du quart-monde. En construisant avec elle une réflexion partagée, nous espérions nous situer à l'intérieur de la même recherche humaine, au cœur de laquelle, nous le croyons, Dieu se rend présent.
Nous commençons maintenant notre 2e étape de cette soirée pour vous présenter notre manière de travailler. Nous écoutons Jean-Claude Caillot et Marie-Agnès Fontanier. Marie-Agnès et Jean-Claude ont été animateurs du séminaire dialogal avec Pierre Davienne, qui est maintenant en mission en Algérie et qui est présent avec nous en Zoom ce soir. Marie-Agnès et Jean-Claude vont vous présenter la manière dont nous avons travaillé. Ils vont à la fois vous donner des éléments sur la méthode de recherche et sur la démarche d'animation qu'ils ont mis en œuvre.
Bonsoir. Les conditions favorables que vient d'évoquer François pour tenter de construire cette réflexion partagée se sont traduites ainsi. D'abord, nous avons constitué un groupe mixte réunissant 8 personnes en situation de précarité que nous avons appelées témoins qui participent à des fraternités de partage biblique dans leur région et qui ont été sollicitées par un animateur qu'elle connaissait. Quatre théologiens de métier, on l'a entendu, enseignants au Centre Sèvres, également familiers de groupes avec des personnes en précarité, et trois animateurs, Jean-Claude, Pierre et moi-même. Ce groupe s'est réuni cinq fois entre mai 2022 et janvier 2023, à chaque fois deux jours, dont au moins une journée et demie de travail au sens strict et des temps de vie partagée. Entre chaque session, les animateurs rencontraient les témoins un par un, à la fois pour une évaluation de la rencontre précédente et pour préparer la suivante. Les théologiens, pour leur part, envoyaient à l'équipe d'animation un texte d'évaluation ou de réaction. Après ces cinq sessions, qui constituent le séminaire dialogal proprement dit, nous avons eu une session d'évaluation et deux sessions pour préparer cette restitution de ce soir.
Alors, lorsque l'on se décide de travailler à plusieurs, il convient bien sûr de choisir un thème sur lequel réfléchir. Alors, un comité se réunit, décide du thème, et ceux que, éventuellement, cela intéresse, s'inscrivent. Le travail peut alors commencer. Habituellement, ce travail se fait sous la conduite d'un ou de plusieurs enseignants. Puisqu'ils savent, ils conduisent. Ainsi fait-on dans tous les lieux sérieux. Mais notre séminaire dialogal n'était pas constitué d'enseignants et d'enseignés. Nous avions le projet, une véritable ambition, de mettre au travail des croyants en Jésus-Christ, dont les uns ont pour métier d'être théologiens ou exégètes, et d'autres vivent de situations de précarité et ou d'exclusion sociale. De les mettre au travail ensemble, sans préséance, sans distinction entre certains qui savent et d'autres dont on penserait qu'ils ne savent pas. Notre projet était même d'aller un peu plus loin, nous mettre à l'écoute les uns des autres, puisque nous pensons que chacun, sans exception, a quelque chose à apprendre des autres, et que chacun pourrait et devrait se laisser renseigner par quiconque. Rappelez-vous la formule des Pirkei Avot, est sage celui qui apprend de quiconque, c'est-à-dire de tout le monde. Ne fallait-il pas alors que le choix du thème de ce séminaire, le choix du thème, soit déjà le résultat d'un dialogue? Oui, bien sûr. Mais une fois affirmée cette nécessité, encore fallait-il la mettre en œuvre. Alors, nous avons procédé de la manière suivante. Chacun des membres du séminaire avait préparé, avant la première rencontre, une ou deux questions qu'il aimerait travailler avec d'autres. Par exemple, il y eut, parmi bien d'autres, je cite, « On dit que Dieu est toujours là, mais ça veut dire quoi ? Comment être en paix quand on a subi la violence ? Comment vivre après des deuils ?» Toutes ces questions, bien d'autres, furent mises en commun au cours de cette première rencontre. Et par un travail collectif, nous sommes parvenus à formuler une seule question. Issue du travail de nos deux premiers jours de séminaire, la formulation de cette question était déjà un résultat de ce que peut être un travail en commun, un travail en dialogue. Ayant donc établi notre question de recherche, nous avons approfondi chaque élément de la question. La première étape à parcourir était de nous mettre d'accord sur ce que nous mettions derrière le mot « malheur ». Car, vous le comprenez pour vous-même en entendant ce mot, le mot « malheur » a des connotations fort diverses selon l'expérience de vie de chacun. Après avoir approché de près ce mot, dont nous nous sommes très vite aperçus qu'il n'avait rien d'un mot, mais qu'il désignait parfois ce qu'il est impossible de dire, après avoir approché ce mot, donc, nous avons réfléchi sur ce que signifie « avec nous ». Et c'était la deuxième étape. Que dit cette préposition « avec » ? À quoi ? À qui fait-elle appel ? À quelle ouverture nous conduit-elle ? Puis vint la troisième étape. Que signifie « être avec » ? Être avec quand c'est la personne de Jésus qui en est le sujet. Je suis avec vous. Enfin, la quatrième étape, au cours de laquelle il était temps de tenter une réponse à la question posée au début du parcours. Et ce fut notre quatrième et dernier texte. Nous y affirmons, eh bien, vous verrez vous-même ce que nous y disons, puisque vous allez travailler ce texte dans quelques dizaines de minutes. Un peu de patience.
Pour mener cette recherche théologique, nous avons mis en œuvre un processus d'animation, c'est-à-dire un chemin qui fait germer des graines et qui fonctionne en spirale. Voilà. La confiance qui est aux conditions de l'expression et de la réflexion ne se crée pas seulement parce que les gens sont sympathiques ou qu'ils se sont déjà rencontrés. L'avancée du travail lui-même en dépend intimement, car nous parlons du cœur de l'existence. C'est un processus qui se renforce d'étape en étape, comme tente d'en rendre compte ce schéma. Le processus est orienté par une vision vers quoi tend la flèche. Une vision à long terme, transformer les choses autour de nous, dans la société, dans l'Église, par un travail mené avec des personnes aux expériences de vie très différentes. Transformer les choses pour combattre la misère. Et une conviction qui sous-tend la flèche, et que Jean-Claude vient de dire, chacun a à apprendre des autres. Et ça, en soi-même, est ferment de transformation. Un tel processus suppose au départ l'engagement, qui est le point de départ de chaque participant dans cette aventure, avec sa part d'inconnu. Les animateurs garantissent un cadre, y compris financier et matériel, dans lequel chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Cela passe par des méthodes qui aident à la création de la confiance au sein du groupe, qui n'était pas acquise, à l'expression de chacun, qui n'est pas nécessairement facile, en prenant en compte le corps, à la fois dans ses besoins les plus élémentaires et comme moyen d'expression. Les témoins, eux, s'engagent à libérer 3 jours à chaque session, avec les trajets, dans un lieu inconnu, avec des personnes pour la plupart inconnues, et surtout à réfléchir avec d'autres sur un sujet existentiel à partir de leur expérience de vie. Parce que ce qu'ils apportaient touchait leur propre vie, la liberté de partir leur était signifiée dès le départ, ce qui s'est produit pour une des personnes. Enfin, le troisième groupe, les théologiens, s'engageaient à participer à l'ensemble de chaque session, y compris les temps informels, avec le même matériel que les témoins, c'est-à-dire un classeur pour garder les documents accumulés et prendre quelques notes, mais sans plus. Alors vous voyez qu'au fil des rencontres, l'engagement se renforce et qu'il revient à chaque tour de la spirale, parce que entre tous, les liens qui se tissent renforcent la confiance et encouragent le point de encourage le travail grâce aux premières productions qui sont créées. Ce commun se construit au fur et à mesure et s'accroît de session en session, grâce aux rituels qui ont été repris à chaque session, des danses, des chants, des modes de travail, des visuels, vous avez vu l'icône des deux amis, à la préparation demandée qui était identique pour tous les participants, et à la variété des modes de travail, ainsi qu'à la prière régulière. Et au fil du temps, chacun peut être un peu plus lui-même. C'est une des transformations qui sont en jaune là, dont qui a été nommée à l'issue du processus. Et donc, avec cet être plus lui-même, contribuer à la production commune avec tout ce qu'il est. La production qu'on voit là en vert résulte de la mise en commun avec des techniques diverses, des pensées individuelles et de la maturation collective progressive. Ces techniques, qui permettent donc l'analyse, favorisent l'analyse des expériences de vie de chacun et des apports que nous avons pu proposer, des textes bibliques, des poèmes, une icône, des représentations picturales, etc. Cette analyse est facilitée par des outils visuels, auditifs, des affichages, des déambulations, des groupes de différents formats, des petites scénettes et mises en scène, des partages autour des œuvres d'art. Les textes, qu'on peut appeler la production, ont été rédigés en des modalités différentes à chaque fois, mais chacun des participants a au moins contribué à 3 d'entre eux sur les 4. Le rappel du travail effectué la fois précédente, les rencontres à deux entre les sessions, les évaluations, permettent aussi d'enrichir peu à peu ce travail commun. Cela renforce la confiance dans le groupe, cela assoit la production et l'engagement de chacun. C'est bien ce que veut traduire cette image de la spirale. À la 5e session, un dialogue théologique s'est ébauché à propos de la croix de Jésus, qui entrelaçait les expériences nommées la fois précédente, des textes bibliques, l'échange entre des témoins et l'évocation de textes de théologiens. Un dialogue rendu possible grâce à cette confiance et à l'engagement croissant au fil des rencontres. Tout au long du séminaire, avec ce processus, nous travaillons à une avancée vers la vision de transformation de la société à partir de ceux qui ont très peu de possibilités d'y participer. Transformation en chacun, par l'écoute et la découverte de ressources insoupçonnées en soi. Transformation du groupe, transformation de l'environnement de chacun, et peut-être transformation plus générale. C'est le sens de l'engagement qui a été formalisé à la fin de la 5e session pour chaque participant, qui sera évoqué plus tard.
Nous écoutons maintenant Josie. Petite interlude de musique. Nous écoutons maintenant Josie Conry, Chantal Bell et Sophia Etienne. Toutes trois sont témoins. Elles sont membres du SAPEL ou de la fraternité de la Pierre d'Angle. Elles ont préparé avec les 5 autres témoins cette prise de parole pour rendre compte de l'expérience vécue dans le cadre du séminaire dialogal. À vous la parole.
Bonsoir à tous. Nous avons participé à ce séminaire parce que nous avons été choisis, parce que nous sommes chrétiens, on a tous la foi, parce que on a cru en nous et finalement par Dieu. Jésus nous a appelés parce qu'il était pauvre. Nous sommes témoins dans notre vie. Nous sommes tous vécu la précarité.
Pour vivre ce séminaire, il y a des règles posées au départ et rappelées régulièrement. Ces règles sont pour le respect et l'écoute. Par exemple, laisser parler Laissez parler celles qui ont le plus de mal à parler. On sait écouter sans jugement et c'est une condition pour travailler ensemble. Tout cela a créé un climat de confiance, de sincérité et de vérité. Cela nous fait penser à la phrase de l'Évangile. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce climat de confiance nous a permis de formuler des paroles en s'aidant les uns et les autres et nous donne la force de trouver des mots forts.
On a travaillé sur des mots et on a prié ensemble pour construire une question. La question était, quand Jésus nous dit « Je suis avec vous tous les jours », qu'est-ce que ça veut dire quand il y a du malheur? C'est une question à travailler à long terme. On a travaillé en 4 étapes. Le malheur, le mot avec, l'expression Jésus avec nous, et on a donné notre réponse à la question.
On a d'abord travaillé sur le malheur, et c'était compliqué. Au fond du cœur, ça nous a fait remonter des choses. On a vidé nos entrailles. Déposer les malheurs dans le tambour. Ce texte sur le malheur dit bien notre vie et on voit qu'on n'est pas seul à avoir souffert. Le malheur comme thème nous a fait plonger dans le plus bas et parce que c'était trop dur, l'une de nous a arrêté.
Le séminaire est une épreuve. Parce que travaille beaucoup à l'intérieur, c'est dur. C'est une épreuve parce que la libération fait mal. Parce qu'on ne sait pas comment se libérer.
Chacune de nous, nous avons travaillé entre les sessions pour approfondir les mots qu'on a utilisés. Réfléchir, reprendre les sessions, préparer la session suivante.
Nous les témoins, le travail du séminaire à l'écriture des textes, nous avons donné du courage, de la force. Ça nous a relevés. La parole partagée nous a soulevés. Et nous faisons monter vers Dieu. On était dans le tout. Maintenant, on est riche en spirituel. Le travail qu'on a fait, c'est semer des graines. Et ça nous a fortifié pour aller plus loin.
Voici des paroles qu'on a entendues des théologiens. Nous avons cité leurs paroles. Je comprends que la Bible a été écrite par des témoins. Je comprends le sens de la prière. J'arrive plus facilement à mettre des mots sur ce qui est douloureux dans ma vie. Je lis différemment la parole de Dieu avec d'autres. Et j'ai même de certitude sur le travail théologie. Un théologien a compris d'autres théologiens grâce à une discussion avec les témoins.
Nous les témoins, on aimerait vous dire quelques réactions. J'ai pris à écouter, à laisser parler les autres. J'ai davantage confiance en moi. Je suis moins refermée, moins timide. J'ai appris à ne plus me dévaloriser. J'ai pris conscience que j'ai moins d'agressivité en moi. On a pris ce qui est la théologie.
Dans ce séminaire, on a travaillé ensemble avec les théologiens, c'est possible. Les théologiens ont besoin de nous. et nous, on a besoin d'eux. Parce que l'Église est une communauté où on essaie de travailler ensemble. Si on arrive à se comprendre, on avance tous à petits pas. Il faut aller à la rencontre des gens et faire que l'Église accepte ceux qui n'osent pas y entrer, même les plus pauvres. Mais l'Église, c'est nous. Si nous les accueillons avec le sourire, ils oseront, on est responsable. Dire une parole de foi à partir de l'expérience du malheur, c'est comme un poisson pilote dans l'Église.
Après cette expression que nous avons vécue, maintenant j'ai la force d'évangéliser, de parler de Jésus et de mon Père. Je veux me battre pour que ce que j'ai vécu n'arrive pas d'autre. J'ai un autre langage, une autre envie de vivre, une autre façon de voir. Voir les choses en positif, ça transforme autour de soi.
Réfléchir, prendre du recul, comme on l'a fait dans le séminaire, nous aide à nous battre pour les autres, pour d'autres. À la fin du séminaire, tous les témoins et les théologiens ont reçu une carte avec l'icône de Jésus et son ami. Chacun y a écrit un engagement qu'il prenait. C'est une grâce qu'on a aujourd'hui, les fruits qu'on a reçus, on est là pour les témoigner, en témoigner, excusez-moi.
Nous écoutons maintenant Christophe Pichon, qui est théologien. Christophe enseigne le Nouveau Testament ici au Centre Sèvres et il est l'un des quatre théologiens qui a participé au séminaire dialogal. Christophe, à toi.
Je prends le relais de Josie, Chantal et Sophia pour dire comment j'ai vécu nos temps de travail comme l'un des théologiens, pour moi bibliste. Et j'ai envie de vous partager quatre choses. La première, c'est que les animateurs ont pris soin de nous faire nous rencontrer progressivement. Apprendre nos prénoms à la première rencontre, recevoir des messages sur le groupe WhatsApp au cours du séminaire, et puis recevoir une carte de Lourdes de René cet été. Ces petits riens disent les relations qui se sont tissées entre nous, sans lesquelles nous n'aurions pas travaillé comme nous l'avons fait. Les animateurs nous ont beaucoup aidés à ce que nous travaillions ensemble, en tenant compte de la fatigue. C'était la première chose. La deuxième chose, je me suis senti comme un croyant avec d'autres, et notamment avec vous les témoins, à qui des épreuves, des galères, ont appris des choses essentielles sur la vie, que je ne fais que pressentir. Vous entendre en parler m'a permis d'entrepercevoir ce que peut avoir de dévastateur le malheur. Et en même temps, vous nous avez parlé de la foi au Christ, qui est avec vous, avec nous, et nous en avons parlé ensemble. Troisième chose. Je reste marqué par le moment de la rédaction du texte intitulé « Dieu est avec nous ». J'étais avec Marie-Agnès, Chantal, Sophia et Josie. Toujours les mêmes en fait. C'était le soir, et nous étions fatigués, vraiment fatigués. Et j'ai vu se composer, avec les mots des post-it de l'après-midi, un témoignage en trois temps. Et au cœur de ce témoignage, un moment décisif. Dans la nuit, je me suis réveillé parce que Dieu était auprès de moi. J'avais lu des choses théoriques sur les témoignages. Mais le fait de prendre conscience que nous étions en train d'en composer un a été comme un flash. Et je me suis dit, et si la Bible était née de tels échanges et de telles expériences. Dernière chose que j'ai envie de vous partager. J'ai la conviction et je fais l'expérience, notamment dans le groupe Chemin d'Espoir auquel j'appartiens, qu'un bibliste dit de métier, s'il se met à l'écoute des témoins, apprend comment lire la Bible. Et cela ne s'est pas démenti. Je garde en mémoire, par exemple, notre partage sur la rencontre de Jésus avec l'homme sourd à la parole difficile dans l'évangile de Marc. Peu de temps après cette session, c'était la quatrième, je devais intervenir dans un groupe. J'ai commenté le texte en ouvrant les commentaires avec lesquels je travaille d'habitude, mais aussi avec les pépites que j'avais entendues dans nos échanges. Je n'aurais jamais pu proposer la lecture que j'ai faite sans vous, les témoins.
Merci Christophe. Pour vous aider à percevoir un peu l'ambiance du travail durant le séminaire, nous allons maintenant regarder un petit film qui a été préparé par Frédéric-Marie Leméauté, qui est théologien et qui enseigne ici en théologie fondamentale et en théologie pratique.
J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, chercher la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Et j'ai trouvé des mots éclatants d'impatience à l'aurore du jour, de sentir le soleil, des mots bien aiguisés, cinglants d'impertinence pour bousculer ma vie, me sortir du sommeil. J'ai ouvert le livre, cherché la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Et j'ai trouvé des mots éclatants d'impatience à l'aurore du jour, de sentir le soleil, des mots bien aiguisés, cinglants d'impertinence pour bousculer ma vie, me sortir du sommeil. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, cherché la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Et j'ai trouvé des mots, de longs cris de souffrance sous les coups du malheur et de la barbarie, des mots si torturés sous la désespérance pour m'apporter le doute sur le sens de la vie. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, chercher la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Trouver des mots impossibles à lire, les mots propres de Dieu, brûlants de sa passion, des mots si forts, si grands, des mots qui me chavirent pour me conduire ma vie vers la résurrection. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre,
chercher la parole de
l'humanité,
les mots qui font vivre et qui rendent heureux. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, cherché la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux.
Nous entrons maintenant dans la quatrième partie de notre soirée où nous voudrions vous présenter ce que nous avons produit durant ce séminaire. Je commence cette étape en vous présentant comment nous avons élaboré ensemble notre premier texte, un texte sur le malheur. En amont de la rencontre, chacun, témoin comme théologien, avait été invité à relire une expérience de malheur. Et chacun avait cherché à repérer les caractéristiques du malheur présentes dans sa relecture. Lors de la rencontre, nous avons d'abord travaillé en deux groupes, un groupe de témoins et un groupe de théologiens. Dans chaque groupe, nous avons partagé sur les caractéristiques du malheur, les ingrédients du malheur, si on veut dire ça autrement, ce qui l'engendre et le provoque. Chaque groupe a préparé des ronds rouges que nous avons essayé d'organiser. Puis les deux groupes se sont réunis et chaque groupe a présenté à l'autre le fruit de sa réflexion au moyen des ronds rouges. Là, nous avons eu un temps de conversation pour chercher à entrer dans l'intelligence de l'autre groupe, dans sa compréhension de ce qu'est le malheur. Alors, nous avons commencé une autre étape. Après nous être écoutés, accueillis, après avoir cherché à bien comprendre les uns et les autres, après tout cela, nous avons commencé à inventer ensemble comment nous pourrions conjuguer nos deux types d'intelligence de ce qu'est le malheur. Et ça aboutit à ça. Après cela, une petite équipe a été appelée pour rédiger un texte. Un animateur, trois témoins, un théologien. Ensemble, nous avons repris les ronds et les étoiles tels qu'ils étaient organisés et commencé à exprimer cela en phrases. Souvent, cela a entraîné de nouvelles explicitations des unes et des autres. Et peu à peu, le texte s'est élaboré durant la soirée. Et puis le lendemain matin, le petit groupe, là, l'animateur, trois théologiens, trois témoins et un théologien, nous avons présenté aux autres le texte sur le malheur que nous avions écrit. On l'a lu à l'ensemble du groupe. Et tous ensemble, on a fait quelques ajustements sur le texte. Et puis le texte a été affiché et chacun a pu s'en imprégner et se l'approprier. Et c'est devenu notre texte à tous. Nous allons maintenant écouter René Lefebvre, l'une des témoins, membre de la fraternité de la Pierre d'Angle. René va nous lire ce texte sur le malheur. À toi la parole.
Le malheur, c'est un cercle infernal, une spirale qui nous enfonce en bas. Tout s'enchaîne, tout s'accumule, impossible d'en sortir, on est engagé. Ce sont des souffrances qui se répètent de génération en génération. Ce cercle infernal amène une impossibilité d'avoir le choix de sa vie. On veut, mais on ne peut pas. L'événement qui fait toucher le fond et qui nous enfonce, c'est le placement des enfants, une coupure, une blessure, et cela reste une déchirure à vie. Quand on est pris dans le tambour du malheur, il ne peut plus y avoir de communication avec les autres, car on n'a pas les mots, on ne peut rien dire. On ne se sent pas écouté, on ne se sent pas autorisé à parler. Quand on est pris dans le tambour du malheur, on cache ce que l'on vit, car on a honte. C'est pas tellement de la honte, mais un trop de souffrance dans lequel on s'enferme. Si on parlait, il y aurait tant de regards négatifs qui nous enfonceraient en bas et qui feraient qu'on se sentirait moins que rien. Aucune reconnaissance de notre dignité. Quand on est pris dans le tambour du malheur, c'est la misère. La misère, c'est manquer d'argent et de nourriture, ignorer ses droits, avoir une vie anormale avec trop de travail et de solitude, un corps marqué, malade et blessé, c'est être abandonné par la société. Quand on est pris dans le tambour du malheur, on n'est compté pour rien. C'est-à-dire qu'on est exploité, rejeté. Pas de place pour nous. On n'a pas de relation qui nous relève. On est comme un jouet que les autres utilisent. On n'existe pas. On a une vie de robot. Quand il n'y a plus de pile, on nous jette. Quand on est pris dans le tambour du malheur, on vit la peur que le malheur revienne. Et cela marque à vie. Le moindre événement peut faire ressurgir les malheurs du passé et se crisper à l'intérieur. Quand on est pris dans le tambour du malheur, on ne croit pas quand on parle de violence, qu'on subit violence conjugale, violence institutionnelle. Quand on est pris dans le tambour du malheur, notre vie est un fratras. C'est impossible de l'organiser. On vit dans la dépendance. On se fait dicter notre vie par les autres. On n'a plus la force de se battre, ni de dire non. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Il y en a marre. Malgré tout, quand on est dans le tambour du malheur, parfois on peut s'échapper. On a une envolée. Et la question, pourquoi moi ? S'ouvre vers Dieu.
après ce temps d'intériorisation, la parole est maintenant à Chanceline Kenko, témoin elle aussi et membre de la Fraternité de la Pierre d'Angle. Chanceline va nous lire le dernier texte que nous avons rédigé ensemble. C'est notre réponse à la question théologique que nous avions élaborée au seuil de notre séminaire. Chanceline, à toi.
Quand Jésus nous dit « Je suis avec vous tous les jours », quand il y a du malheur, on ne voit que c'est vrai dans nos vies. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est tous les jours avec nous. Dans le malheur, s'il n'était pas avec nous, on serait perdu, on ne serait rien. Dieu nous donne sa force pour avancer. Il me soutient pour continuer mon chemin. Quand il y a trop de souffrance, on ne voit pas Dieu, on ne le ressent pas, on ne l'entend pas. Il peut arriver qu'on ne croit plus en sa présence. Quand Jésus nous dit « Je suis avec vous tous les jours », quand il y a du malheur, je vois que c'est vrai dans la vie de ceux qui ont vécu le malheur plus radicalement que moi et qui en témoignent. Ce qu'il a fait pour d'autres, il peut le faire pour moi. Être et parler ensemble, ça donne du courage et la foi grandit. Quand Jésus nous dit « Je suis avec vous tous les jours », quand il y a du malheur, je crie vers Dieu. Je peux crier vers Dieu pour être entendu. Même si je n'ai plus de mots et que je ne sais plus quoi faire, je suis sûr qu'il est là. Je peux tomber dans Dieu comme un caillou sans mots. Je crie vers lui sans avoir de mots. Même dans le malheur, je peux encore crier vers lui et laisser Dieu être Dieu. Quand Jésus nous dit « Je suis avec vous tous les jours », quand il y a le malheur, on peut le croire en Jésus a connu le malheur et Dieu aussi avec lui. On souffre en Jésus aussi a souffert sur la croix. Ce n'est pas la même souffrance que nous. On vit d'autres souffrances. Jésus nous aide à porter notre croix parce qu'il a porté la sienne. Jésus a souffert pour nous, pour nos fardeaux, pour notre croix. Il est monté sur notre croix. Jésus a connu la souffrance. Ça l'a rapproché de nous. Et on peut être avec lui.
Vous êtes maintenant invité à vous mettre en petit groupe de 4 ou 5 personnes. Des membres du séminaire vont vous distribuer le texte que Chanceline vient de lire. Pour ceux qui sont sur Zoom, vous allez aussi être mis en groupe. Vous êtes invité à cliquer sur « Rejoindre la salle » lorsque cela apparaîtra sur votre écran. Vous avez reçu par mail le texte « Notre réponse » et vous êtes invité à vous y reporter. En groupe, que ce soit en Zoom ou ici dans la salle, nous vous proposons de commencer par vous présenter en disant tout simplement votre prénom, puis vous relisez le texte et vous réfléchissez aux 2 questions que nous avons mises au bas du texte. Vous avez une 20aine de minutes en petit groupe. Très bon temps d'échange. Nous allons maintenant revenir en grand groupe. Voilà, on arrête les conversations et on revient tranquillement. Donc voilà, nous sommes de nouveau en grand groupe, ceux qui sont ici dans la salle et ceux qui étaient sur Zoom sont aussi revenus. Voilà, on attend un instant que les derniers soient tout à fait assis. Nous poursuivons maintenant en écoutant Michel Fédou. Michel Fédou est enseignant en théologie dogmatique et en théologie patristique au Centre Sèvres. Michel n'a pas participé au séminaire. C'est donc un regard théologique extérieur que nous entendons maintenant. Merci beaucoup, Michel, de nous faire l'amitié de nous lire et de nous partager ta réflexion à partir des textes élaborés en séminaire dialogal. À toi la parole.
Merci beaucoup Laure, merci beaucoup pour cette invitation. La question qui m'a été posée à partir des textes que nous avons entendus, c'est donc cette question, quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours », qu'est-ce que cela veut dire quand il y a du malheur ? Ma première réaction est de dire qu'il ne faut pas trop vite répondre à cette question. Si l'on répondait trop vite, on pourrait donner l'impression que l'épreuve du malheur n'a pas été vraiment reconnue dans sa radicalité. Avant de répondre, c'est en tout cas ce que je me suis dit, il faut prendre le temps de laisser retentir les mots qui disent cette épreuve du malheur. Les mots, ou d'abord les images, l'image de la cage dans lequel on est enfermé. L'image du tambour d'une machine à laver le linge, la formule revient plusieurs fois, nous l'avons entendu, quand on est pris dans le tambour du malheur. Le tambour, c'est-à-dire, je dois dire, j'avais jamais beaucoup réfléchi, c'est le tambour d'une machine à laver le linge, mais oui, le tambour, c'est ce lieu fermé dans lequel le linge est par moments ballotté à un rythme d'enfer, dans un vacarme parfois assourdissant. Et puis d'autres images encore, comme celle d'un jouet que les autres utilisent, l'image d'un robot, un robot que l'on jette lorsqu'il n'a plus de piles, l'image d'un fatras dans lequel on est englué, l'image d'un caillou sans mots, l'image d'un tombeau, tambour, tombeau, c'est proche. Des images fortes qui ont le pouvoir de suggérer ce que souvent les notions, les concepts par eux-mêmes sont souvent impuissants à dire. Des images qui suggèrent l'abîme du malheur. Ce que l'on entend aussi à travers les textes que nous avons entendus, c'est l'expérience d'un enchaînement, un enchaînement dont on est de plus en plus prisonnier. Le malheur est comme une spirale qui nous enfonce en bas, nous avons entendu cela tout à l'heure. Et plus on s'enfonce, plus il est difficile d'en sortir. L'expérience d'un enchaînement, l'expérience d'une répétition inéluctable, les souffrances se répètent de génération en génération. Ou encore l'expérience d'une impuissance, parce que on aimerait choisir une autre vie, mais on ne peut pas. Et en lisant ces mots, on veut, mais on ne peut pas. Je me rappelais un penseur grec très ancien, un penseur grec des 1er, 2e siècle, qui s'appelait Épictète. Il parlait du malheur et il évoquait en ces termes le malheur qui avait été enduré par l'héroïne d'une tragédie grecque. Je forme un désir et il ne se réalise pas. Qu'y a-t-il de plus malheureux que moi ? Je ne veux pas de telle chose et elle arrive. Qu'y a-t-il de plus malheureux que moi ? Il y a d'autres traits aussi qui caractérisent l'expérience du malheur. Le fait d'être atteint par un événement qui reste une déchirure à vie, c'est-à-dire une déchirure dont on ne voit pas de guérison à vue humaine. Également, l'impact sur le corps lui-même, le corps qui est marqué, le corps qui est malade, blessé. Le sentiment d'un trop de souffrance, un trop de souffrance. C'est pas la même chose que la honte qui est engendrée par une faute qu'on a soi-même commise. Parce que, avec le malheur, on fait l'expérience d'être débordé, en quelque sorte, par une souffrance disproportionnée, excessive. On n'a plus la force de se battre. Et puis, il y a l'incompréhension face à ce qui arrive. L'isolement aussi, parce que, justement, le malheur peut être tel qu'il ne permet plus de communiquer avec les autres. On est sans mots, ou bien on ne nous croit pas. On vit dans l'indépendance, mais en tous les cas, on n'a pas de relation qui nous relève. On a entendu cela. On n'a pas de relation qui nous relève. Et, bien sûr, le malheur en vient à affecter la relation à Dieu même. Je cite... On ne voit pas Dieu, on ne le ressent pas, on ne l'entend pas. Il peut arriver qu'on ne croit plus en sa présence. Bref, il y en a marre. Alors il me semble, en tout cas c'est ce que je me suis dit, il me semble que c'est seulement si l'on a pris le temps d'entendre et de réentendre tout cela, qu'on peut accueillir en vérité cette parole de Jésus dans l'Évangile « Je suis avec vous tous les jours ». Je suis avec vous tous les jours, y compris donc quand il y a du malheur. Et je crois que les textes que nous avons entendus témoignent précisément de plusieurs chemins qui aident à accueillir cette parole de Jésus d'une manière juste. J'ai repéré au moins 5 chemins et je voudrais les évoquer brièvement. Un premier chemin qui me semble ouvert par ces textes que nous avons entendus, surtout le texte réponse, c'est... l'expérience d'une force qui est donnée jusque dans le malheur. Nous l'avons entendu, Dieu donne sa force pour avancer. Et je dois dire que, en entendant cette phrase, et en la lisant, en la relisant, j'ai repensé à ce qu'avait écrit Etty Hillesum, cette femme juive hollandaise qui est morte au camp d'Auschwitz en 1943. Elle disait dans son journal... Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu. Elle s'adressait à Dieu, elle lui disait, je vais te promettre une chose, mon Dieu, ou une broutille. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. Alors, ce sont des lignes, évidemment, qui paraissent tout à fait extrêmes, parce qu'on se demande, mais est-ce que c'est pas Dieu, quand même? Est-ce que c'est pas Dieu qui doit nous aider, qui doit aider l'être humain, plutôt que l'inverse? Mais ce qu'on entend à travers ces mots, c'est en fait l'expérience d'une force, une énergie qui jaillit mystérieusement d'une personne qui est pourtant dans le malheur. Alors même que cette personne ne ressent plus le secours de Dieu, elle trouve... assez de force pour prononcer de telles paroles. Est-ce que cela serait possible, précisément, si Dieu ne demeurait pas de quelque manière présent à cette personne? Cette énergie qui est puisée au fond de soi-même n'est-elle pas le signe que Dieu ne nous abandonne pas et qu'il est tous les jours avec nous? Un premier chemin qui me semble ouvert par ce que nous avons entendu. Deuxième chemin, nous avons entendu cette phrase, « Ce que Dieu a fait pour d'autres, il peut le faire pour moi. » Ce que Dieu a fait pour d'autres, il peut le faire pour moi. Celui ou celle qui est dans l'abîme du malheur peut du moins se rendre attentif à ce que Dieu a pu faire en dehors de lui. Alors bien sûr, ça ne le fait pas échapper à son propre malheur. Mais s'il est donné de rencontrer quelqu'un d'autre qui a connu une grande épreuve et qui a pu plus ou moins s'en sortir, alors oui, cela peut être une source d'espoir. Il me semble que l'histoire de la Bible, l'histoire biblique le vérifie très souvent. Lorsque le peuple est dans l'épreuve, les prophètes dans la Bible incitent ce peuple à faire mémoire de ce que Dieu a fait pour ses pères dans le passé. Voilà un deuxième chemin. Ce que Dieu a fait pour d'autres, il peut le faire pour moi. Troisième chemin, nous avons entendu cette formule, être et parler ensemble, ça donne du courage et la foi grandit. Je disais tout à l'heure que le malheur isole, et nous entendions cette parole, on n'a pas de relation qui relève. Eh bien, précisément, le rempart contre un tel isolement, c'est la parole échangée, ou au minimum, l'expérience d'être ensemble. Et je crois qu'on peut connaître cette expérience, par exemple, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est gravement malade, ou lorsqu'on rencontre une personne qui est malade. On peut se parler, et même si la parole est difficile, voire impossible, une relation est donnée par la simple présence. On fait l'expérience que cette présence relève et que d'une certaine manière, elle remet debout. Cette présence, elle est comme une petite résurrection. Une résurrection qui certes n'abolit pas le malheur, mais qui redonne du courage, qui redonne de la confiance, voire même de la foi. Quatrième chemin, celui du cri à l'adresse de Dieu. Déjà à la fin du texte, le malheur, nous avons entendu cette phrase étonnante. Malgré tout, quand on est dans le tambour du malheur, parfois on peut s'échapper, on a une envolée, et la question « Pourquoi moi ?» ouvre vers Dieu. Je me suis beaucoup interrogé sur cette phrase. Comment comprendre cela? Parce que de soi, si je demande « Pourquoi moi ?», la question semble plutôt confirmer que je suis bien dans le malheur. Justement parce que c'est moi qui souffre, et non pas quelqu'un d'autre. Mais en réalité, le fait de demander « Pourquoi moi ?» implique déjà, paradoxalement, une forme de distance par rapport à ce que l'on subit. La question me fait un peu sortir de moi-même. On peut s'échapper. Et c'est plus vrai encore si cette question ou ce cri est adressé à Dieu lui-même. Entendons de nouveau ce qui a été lu tout à l'heure. Je peux crier vers Dieu pour être entendu, même si je n'ai plus de mots et que je ne sais plus quoi faire, je suis sûr qu'il est là. Même dans le malheur, je peux encore crier vers lui et laisser Dieu être Dieu. Quand on entend ces lignes, il est difficile de ne pas penser à ce qui fut, d'après les évangiles de Matthieu et de Marc, le cri de Jésus lui-même sur la croix. « mon Dieu, pourquoi ? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus n'a pas simplement dit « Pourquoi moi ?» mais en reprenant la parole d'un psaume, il a dit lui-même à Dieu, son Père, il lui a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains théologiens, en particulier le théologien protestant Jürgen Moltmann, ont pensé que ce cri « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» exprimait un désaccord, une dissension entre Jésus et Dieu son Père. Personnellement, je l'interprète de manière un peu différente. Moltmann, certes, a raison de souligner que Jésus a dû faire sur la croix l'expérience de se sentir radicalement abandonné. Mais son cri atteste que, jusque dans l'épreuve abyssale de la déréliction qu'il a dû connaître, il a continué de s'adresser à son Père dans une confiance, dans une forme d'espérance. Et j'imagine que Jésus, sur la croix, aurait pu dire lui-même les quelques mots que nous avons entendus il y a un instant. Je peux crier vers Dieu pour être entendu, je suis sûr qu'il est là. Même dans le malheur, je peux encore crier vers lui et laisser Dieu être Dieu. Laissez Dieu être Dieu. Quelle belle formule. Celui ou celle qui est dans le malheur peut encore croire que, alors même qu'il ne voit pas Dieu, alors même qu'il n'entend pas Dieu et qu'il ne le ressent pas, Dieu est néanmoins là et qu'il faut laisser Dieu être Dieu dans l'attente du jour où sa présence sera de nouveau perçue et ressentie. Ces réflexions que je viens de proposer ont déjà rendu attentif, je pense, à un cinquième et dernier chemin par lequel je vais terminer, ce que j'appelle la mémoire présente du crucifié. Je relis ce que nous avons entendu il y a un instant. On souffre et Jésus aussi a souffert sur la croix. Bien sûr, la souffrance de Jésus sur la croix est unique entre toutes puisque, selon la foi chrétienne, il est le Fils unique de Dieu. Bien d'autres ont été mis à mort dans l'histoire humaine, mais Jésus est le seul à avoir connu une telle épreuve en tant que Fils de Dieu, quelque sorte. Et cependant, le texte que nous avons entendu tout à l'heure ajoute, à juste titre, à propos de la souffrance de Jésus, « Ce n'est pas la même souffrance que nous, on vit d'autres souffrances. » De fait, alors même que la souffrance de Jésus a été unique, elle ne s'est pas substituée à la souffrance des hommes et des femmes qui, depuis des siècles et aujourd'hui encore, font l'expérience du malheur. On vit d'autres souffrances. Mais il reste que Jésus a connu la souffrance et qu'il a souffert pour nous et que ça l'a rapproché de nous et que, comme le disait le texte tout à l'heure, on peut être avec lui. J'ajouterai, évidemment, c'est essentiel, que ce qu'on appelle le corps du Christ, ce n'est pas simplement le corps de Jésus ressuscité, mais que ce corps du Christ inclut tous ceux, toutes celles qui lui sont de quelque manière unis. Jésus ne souffre pas à la place de ceux qui connaissent aujourd'hui le malheur, mais par avance, il s'est donné pour eux et il est avec eux dans le temps de l'histoire. Il leur est présent tous les jours, y compris et surtout quand il y a du malheur. Et il leur est si profondément uni que lorsque le Fils de l'homme se révélera à la fin des temps, il dira à ceux et celles qui seront venus en aide aux personnes dans le malheur, « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, de mes sœurs, c'est moi qui ajoute les sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. » Voilà les quelques réflexions très simples que je voulais proposer. Mais il me semble que ces réflexions ne peuvent sonner justes que si, comme je le disais en commençant, on prend d'abord le temps d'écouter les personnes dans le malheur. Et je dirais même que ces réflexions que j'ai proposées doivent inviter à entendre, peut-être, à une autre profondeur, les mots jaillis de la souffrance humaine. En ce sens, ces réflexions ne sont pas simplement une réponse, mais elles sont plutôt un écho qui, je l'espère, peut aider à mieux entendre l'expérience même du malheur. C'est vraiment une condition essentielle pour que puisse vraiment résonner la promesse de consolation et d'espérance. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, y compris dans le malheur.
Merci beaucoup, Michel. Merci pour tes paroles qui nous aident à percevoir toujours plus la profondeur de ces textes et à les entendre, même pour nous qui pourtant les avons écrits ensemble, avec une densité et une force nouvelle. Merci beaucoup. Pour finir notre partage, nous écoutons maintenant Josie Conry, l'une des témoins, nous lire le troisième texte que nous avons élaboré. Ce texte est une prière, donc ensemble, nous nous tournons vers le Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans ta parole.
travailler ensemble ta parole nous permet de mieux comprendre et de sentir ta présence. Ta parole, entendue dans la Bible, les troupes de partage et à la messe nous nourrit, nous travaille, nous motive. Tu es présent quand nous recevons ta parole et quand nous parlons de toi aux autres. Fais entendre ceux qui ne veulent pas l'écouter et donne-leur ta sagesse. Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans le cœur à cœur avec toi. Tu nous as dit de te demander, alors nous nous confions à toi. Nous pouvons te parler ouvertement de nos malheurs. Même si dans la souffrance, nous ne voyons que la souffrance. Nous savons que tu viens à notre secours et que tu nous sauves. Tu es présent dans nos pensées, nos croyances, notre foi. À chacun peut dire, je sens ta présence et je me sens mieux. Je me sens habité. Seigneur Jésus, merci pour les traces de ta présence. Un beau voyage, un beau paysage, la nature, une bonne personne, la joie de vivre, le souffle de vie que tu mets en nous. Les sacrements, tout cela nous parle de toi. Merci aussi pour ta présence dans les moments difficiles, après l'apaisement de la douleur. Nous nous rendons compte que tu étais là, avec nous, et que tu es toujours là, que tu es toujours là. Tu as toujours ton regard fixé sur nous. Et nous pouvons aussi te regarder et approcher les autres comme tu le fais. Amen et merci. Ce qui me confirme de signe de toi, mon Dieu, c'est que je me sens bien parmi les autres. Seigneur Jésus, tu envoies des gens pour nous faire sortir de l'enfermement et rencontrer les autres. Tu as osé ta main, tu as posé ta main sur moi. Ta main me pousse, avance, ne reste pas dans ton coin. Quelqu'un m'amène, me fait confiance. J'appréhende, c'est dur, mais ça me fait du bien. Jésus, tu nous as réunis ensemble et tu es au milieu de nous. C'est grâce à toi que nous sommes ensemble. Jésus, nous te recevons dans tes communautés les uns par les autres. Nous avons des expériences différentes de la souffrance. Nous pouvons déposer nos souffrances entre nous. On a accepté comme on est. La confiance des autres envers nous nous donne la confiance. On aide les gens qui n'osent pas prendre la parole et on encourage à l'écouter vraiment. On apprend que qui tu es, Jésus, en écoutant les autres. Quand nous parlons tous ensemble et à Dieu, de nos vies, la foi grandit. Seigneur Jésus, parfois dans la difficulté, tu nous appelles à faire comme tu as fait pour nous. Tu nous donnes l'Esprit Saint, la sagesse qui nous parle. Cette parole nous fait agir pour nous et pour les autres. Ainsi, on t'aide. Dieu a sauvé comme tu nous aides. Nous venons te rencontrer dans l'église qui est ta maison. Mais ta maison, c'est aussi n'importe quel endroit où nous prions. Tu es présent partout au milieu de nous. Tu nous suis. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen.
Nous voici arrivés presque au terme de notre soirée. Merci pour votre présence à cette soirée de la chaire Jean Rodin. Vous aurez la possibilité d'écouter en replay cette soirée sur le site du Centre Sèvres dans quelques jours. En sortant, à la table qui est à droite, vous pourrez vous procurer des petits livres dans lesquels sont édités l'ensemble des textes produits par le séminaire dialogal. vous êtes invité à laisser une offrande qui est dans la boîte qui est à côté des petits livres. Pour ceux qui sont sur Zoom, vous avez reçu le bon de commande délivré pour les recevoir par la poste. N'hésitez pas à en commander et pour cela à écrire à Jean-Claude Caillot qui vous fera parvenir les livres dans les plus brefs délais. Avant de conclure tout à fait la soirée, je voudrais vous inviter à prendre en sortant des livrets programmes de la chaire Jean Rodin pour découvrir les autres propositions de la chaire. Et je laisse la parole à Frédéric-Marie Leméauté qui va vous présenter la session diaconie qui se tiendra au Centre Sèvres les 2 et 3 février prochains.
Voilà. Allô. Bonsoir. Donc vous trouverez à la fin de à la sortie de la salle ce petit livret qui présente la session diaconie 2024 qui a pour titre Renaître d'en haut avec ceux d'en bas. Elle se tient les vendredis 2 février et samedi 3 février, donc prochain ici même au Centre Sèvres. L'idée de cette session, c'est de faire se rencontrer. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes dans l'église ou en dehors qui sont attentifs à la parole des personnes en précarité et le pape François dans Laudato aussi ou dans Evangelii Gaudium pardon parle de l'attention spirituelle aux plus pauvres qui est un enjeu un petit peu primordial. Donc l'idée de ces deux jours, c'est de partager ensemble à partir de nos expériences, de découvrir la profondeur de la révélation du Christ qui se donne dans nos rencontres avec les personnes les plus précaires, de prier ensemble, d'échanger nos différentes expériences de vie. Pour vous donner envie, il y a des gens qui viennent de Marseille, de la Maison Bernadette, de Toulouse, de la diaconie du Var, Gilles Rebèche sera là. Il y aura la question écologique qui sera abordée avec Xavier de Benazé. Voilà, c'est une session qui est organisée en lien avec l'APA, avec différents visages d'église qui se consacrent aux plus pauvres. Voilà, pour découvrir ensemble aussi comment les plus pauvres sont une figure de communion, peuvent être une figure de communion dans notre église qui en a besoin. 2-3 février, ça va être super. Merci.
Donc il y a des tracts au fond, n'hésitez pas à en prendre pour vous. Et puis aussi pour d'autres à qui vous pourriez les partager. Mais la soirée n'est pas tout à fait terminée. Maintenant, nous avons devant nous un bon moment d'échange et de questions. Habituellement, nous avons ce temps d'échange et de questions avec les intervenants qui se tiennent ici à l'estrade. Mais vous avez vu le nombre d'intervenants de cette soirée, c'est juste pas possible, on tient pas sur l'estrade. Donc, tous ceux qui ont participé vont être là au fond et nous allons échanger de manière informelle autour d'un verre de jus de fruits et de quelques biscuits. Donc n'hésitez pas à venir poser des questions à tous ceux qui ont pris la parole pendant la soirée. Pour ceux qui sont sur Zoom, nous sommes désolés, les jus de fruits et les biscuits c'est compliqué, mais on pense bien à vous et on vous souhaite une bonne soirée. Et il y a une urne au fond de la salle et dans le couloir dehors. Vous pouvez laisser une libre participation pour couvrir les frais qui ont été occasionnés par cette soirée. Et pour ceux qui sont sur Zoom, il est possible d'envoyer une contribution par le site du Centre Sèvres. Je vous remercie beaucoup pour votre générosité et pour votre présence. Merci beaucoup.